avec Benoît Marchal.
Bienvenue pour le 158e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode où l'on rencontre le photographe Didier Pazuri. Retenez dès à présent l'adresse du site www.déclencheur.com, c'est là que vous pourrez vous abonner. Et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris l'abonnement iTunes, l'email et tous les agrégateurs RSS. Vous pourrez également y poster un commentaire et retrouver tous les liens de l'épisode. Vous pouvez écouter les épisodes directement sur le site, mais il est tellement plus facile de les copier sur un iPod, un baladeur MP3, un téléphone multimédia ou de graver un CD pour les écouter en voiture, en métro, en reportage ou en avion. Premier segment pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'écouter le podcast sur baladeur. Sachez que www.déclencheur.com, outre le podcast que vous écoutez en ce moment, c'est aussi beaucoup d'informations utiles, avec d'abord un blog, Déclencheur Carnet, qui en novembre a traité de sujets fort divers. Quelques sujets d'auto-célébration, comme l'excellente position de Déclencheur dans la sélection Intunes 2008, puisqu'il est situé juste entre 2000 ans d'histoire et les grosses têtes, donc deux monstres de la radio. Une autre note pour marquer notre animation au Salon de la Photo qui était un vrai succès, une vidéo sur les préparatifs du 100e épisode, et enfin les nouveaux badges Déclencheur, l'indispensable objet pour le photographe soucieux de son image. Après les notes d'auto-satisfaction, une note qui contient un appel à commentaires pour un épisode sur les photos de la Saint-Sylvestre. Notons également quelques notes de réflexion sur la photo, je m'interroge toujours autant sur l'évolution en cours dans les boîtiers, avec notamment à l'annonce par Red d'un système photo-vidéo modulaire, au plus proche de moi, la sortie du Canon G10. Bien autre chose encore sur Déclencheur Carnet, des notes plus légères ou des notes plus sérieuses, comme celle sur la nouvelle formule de Déclencheur qui est maintenant en phase de finalisation. Ensuite, sur www.déclencheur.com, le Wikinews qui vous permet de commenter l'actualité de la photo, les nouvelles sorties. On a des comptes rendus en cours d'écriture sur des livres et des DVD. Je vous raconte également mon passage au studio MacMahon pour l'annonce du Nikon D3X. Si vous voulez participer, vous trouverez aujourd'hui deux nouveaux produits en test, mais bien entendu, vous pouvez écrire sur le wiki sur n'importe quel produit de la photo. Pour plus de flexibilité, si vous êtes abonné par fil RSS au podcast, le blog Carnet et le Wikinews sont des abonnements séparés. Deuxième segment, on le retrouve Didier Pazuri qui nous parle de son projet photographique. J'en profite pour remercier Peter d'avoir établi le contact. Bonjour, je suis avec Didier Pazuri. Bonjour.
Bonjour.
Didier, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Je suis photographe. On va dire que j'essaie de gagner ma vie dans ce métier depuis 96. Donc j'ai commencé ce travail au tout début. En fait, moi j'avais fait une formation artistique, j'ai fait les Beaux-Arts un petit peu à Marseille, mais je suis pas resté. J'ai fait une école de graphisme à Paris que j'ai pas terminée non plus. Puis je me suis lancé dans la photo vraiment par passion et puis aussi parce que c'était un moyen de gagner ma vie à un moment où bon j'arrivais à trouver des plans pour voilà. Moi j'ai du mal à faire les choses à moitié et puis surtout je crois que gagner sa vie avec ce média c'est une manière de le faire vivre, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont je pense une inspiration artistique très personnelle qui ont pas besoin d'avoir un support. Moi j'ai vraiment besoin que mes images servent à quelque chose. Alors, c'est pour ça que j'ai souvent essayé de développer des projets, parfois qui prennent des années, avec une idée directrice, qui est un tuteur, en fait, qui m'aide à construire des images. Ça me motive. Mais c'est un besoin aussi de faire des images. Après, je peux faire de l'illustration, j'ai fait plein de trucs très divers et variés dans la photographie. Disons que les projets qui m'ont porté à travers cette dizaine d'années, donc celui-là sur les survivants de la guerre de 14.
Oui, donc là, l'actualité, c'est la sélection pour la Bourse du Talent.
Oui.
Avec un projet qui s'appelle Entre-temps, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Tu l'as commencé quand?
J'ai commencé en... Première photo que j'ai fait, c'était fin 1995. En fait, j'ai fait une photo de mon grand-père. Alors, j'étais pas photographe.
Qui me voyait pas comme photographe?
Dans ma tête, j'étais pas photographe.
D'accord.
Puis mon grand-père m'a montré une photo dans son portefeuille. Et il m'a sorti une photo de lui. On le voyait tout jeune, au service militaire, en posture un peu altière, comme il faisait à l'époque. Et donc, cette image m'avait beaucoup marqué. Le fait de le voir, lui, parce que je m'étais jamais rendu compte qu'il pouvait avoir été jeune. En enfance des portes ouvertes, mais malgré tout, pour moi, ça a été une vraie découverte. Mmh. Quand je suis remonté à Paris pour essayer de me lancer dans la photo, j'ai dit, je vais aller voir la personne la plus vieille que je puisse trouver, qui avait 110 ans à l'époque, qui avait fait la guerre de 14, mais pour moi, c'était accessoire. Je l'ai su bien après, d'ailleurs. Et donc, ce monsieur qui avait plus beaucoup de photos de lui, parce que beaucoup de photographes de presse avaient plié ses archives, m'a sorti une super photo de lui en pied, habillé en gendarme. Et mon premier réflexe a été de dire, je vais faire un agrandissement taille réelle.
De lui.
Oui. Et donc, je connaissais rien. Donc, je me suis acheté un vieil agrandisseur. J'ai bougé les meubles. Ma copine est partie parce que j'ai inondé l'appartement. J'ai développé ça dans la salle de bain avec une éponge. J'ai fait plusieurs essais pour arriver à...
Et là, on est en 96, 90.
Ça, c'est en 95.
Et donc, tu fais l'agrandissement.
Voilà. au bout de plusieurs essais infructueux, il arrive à sortir un truc à peu près potable. Mmh. Et j'ai déroulé sur son palier. Et je me rappelle, donc, il avait 110 ans. Pour moi, c'était quelqu'un qui venait du fond des âges, quoi. Mmh. Je me rappelle, le jour où je suis allé chercher sa fameuse photo, il m'avait reçu, mais j'étais grippé. Je n'osais pas rentrer dans l'appartement de peur de lui refiler mon virus. Donc, j'étais vraiment, j'avais l'impression de remonter le temps parce que.
Immense respect.
Ouais, ouais. Et puis une sorte de fascination aussi pour cette mémoire, en fait. Quand j'ai déroulé cet agrandissement sur le palier, la réaction de ce monsieur a été surprenante. Il était très amusé et puis il avait l'accent du sud-ouest. Il a dit « Tiens, nous avons dans la visite un gendarme ». Il était mort de rire en fait et puis touché aussi, ému. Hein. J'avais tendu un vieux drap derrière, j'avais mis un halogène pourri sur le côté et il y avait des ombres moches que j'ai effacées à l'affaiblisseur. J'ai retravaillé dessus et c'est pas super heureux mais bon, la photo tient la route quand même parce que
il y a le contraste.
Ouais. Cette photo, c'est un grand souvenir. J'ai mis tout un après-midi pour la faire. J'étais en sueur, je me rappelle. Voilà, je gérais pas du tout. Je savais pas ce que c'était qu'un éclairage. Voilà. Après avoir fait cette photo, j'ai écrit aux ONAC, aux Offices National des Anciens Combattants Régionaux. Puis j'ai eu des adresses. À l'époque, il y avait à peu près 2 à 3 000 anciens combattants. J'ai eu assez vite l'idée de le lier à la guerre de 14 parce que le gars était en militaire et puis il m'a raconté. Et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, à l'époque, ils devaient tous se faire photographier en soldat. Donc voilà, donc après j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5 personnages.
Donc quand t'as commencé, t'avais pas de commande
non.
Pour le supporter et tu les as trouvés à...
Ben en fait, le ministère a acheté un stock de livres, ce qui a fait qu'un petit éditeur s'est lancé. Donc il y a Vendouest en 96 qui a sorti un petit recueil. Là-dessus, j'ai pu faire une expo en 96 au musée de Péronne qui est assez moderne, assez dynamique. C'est une chouette expo. Puis j'ai un peu laissé tomber. Voilà, je considérais que j'avais fait un bouquin, c'était déjà énorme pour moi, une expo, bon. Et puis là-dessus, j'ai été appelé pour illustrer un article. Voilà, sur Raymond Abesca. On le voit en fait à 104 ans, qui est en fait à côté de la photo de lui à 4 ans, il y a un siècle d'écart.
Et là aussi, tu as la mise en abîme sur les âges, tu joues également sur la construction, parce que le papy, il est ouais. Dans sa chaise roulante, mais le petit enfant, il tient un cerceau qui fait vraiment le miroir avec la.
Ouais, cette photo, roue. C'est aussi. Il était à Puteaux, le monsieur, il était adorable, hein. Il était sur son fauteuil roulant, là. Et c'est au bout de la troisième visite que j'ai découvert son album avec ses photos. Et vraiment, dès que j'ai vu ce cliché, je lui ai emprunté et je lui ai dit, je reviens demain. Et c'est vrai que c'était évident. J'ai rien inventé, là, je veux dire, c'était, non?
Bah... Oui, c'est évident. Et puis, en même temps, ça a beaucoup de sens.
Oui, oui, ça a du sens. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, moi, je suis pas responsable. Il était sur fauteuil, il avait tenu un cerceau. C'est peut-être parce que, effectivement, j'ai un peu fouillé dans son armoire et qu'à un moment, voilà, mais.
Mais t'as pris le temps de le connaître, de le rencontrer.
Oui, c'est-à-dire que c'est quand même un truc, je sais pas si je le referai aujourd'hui. Hein. Il dit vivait seul, il avait 104 ans, il était bon sur un fauteuil roulant parce qu'il avait eu des problèmes avec un pied quelques années avant. Et rien que le fait de le faire monter sur sa terrasse, c'était toute une aventure. Il avançait difficilement, il y avait un petit rebord avec un petit radiateur, il s'est coincé le pied, sa chaussure articulée sous le radiateur, il a failli tomber en arrière, moi j'ai rattrapé le fauteuil. On a bu un verre de grenadine, après on s'est remis nos émotions, on est remonté sur la terrasse. C'était toute une aventure ce
d'accord.
Truc. Je suis reparti avec Olivier Morel qui à l'époque m'avait rencontré parce qu'il voulait cette photo pour illustrer un article. Et puis, on est tombé d'accord sur l'idée qu'il fallait voir des Allemands. Moi, j'étais vraiment touché quand je suis allé à Verdun pour la première fois. J'y suis allé tout bêtement pour essayer de trouver des sous. Et vraiment, la première fois où je suis allé sur le champ de bataille de Verdun, parce qu'avant, moi, je ne pense pas que j'étais rentré dans le sujet, j'ai été très touché par cet endroit qui est vraiment incroyable. À un moment, j'ai été pris par cette histoire qui est quand même le fondement du siècle et de notre histoire commune, quoi, je veux dire. On s'est tous étripés joyeusement et je voulais voir du côté allemand. Et donc, Olivier qui parlait allemand, on a réussi à trouver des gens là-bas. Voilà, on a vu Monsieur Lange, qui lui est le seul blessé de la face que j'ai photographié.
D'accord.
Qui avait été défiguré par une grenade en 18.
Et à chaque fois, la démarche est la même, tu vas la rencontrer, tu regardes les images qu'il a à te proposer, tu cherches la similitude.
En fait, souvent à l'étranger, on appelait la famille, est-ce que vous pourriez nous envoyer des images? Donc on recevait par la poste un cliché, voilà. Bon, pour Monsieur Lange, par exemple, c'est évident qu'il fallait faire une exacte proportion entre le visage et la photo, c'est une photo de passeport. Hein.
Mmh.
Et puis cette photo, elle était toute petite. Alors c'est là où justement s'opère la magie du truc. Cette image qui est une image sur un passeport que personne ne regardait plus parce que sa femme l'a toujours vu comme ça. Ah, il s'est marié, il était déjà défiguré, sa fille aussi.
Mmh.
Et en fait, cette image qui était très belle, mais une photo d'identité, je crois que personne ne l'avait jamais regardée. Et le fait de l'agrandir, de la mettre sur un support plus grand, eh bien, ça lui redonne une vie, quoi. Cette photo qui a changé de format, c'est un vrai voyage dans le temps. C'est-à-dire que l'émotion qu'elle provoque sur les gens qui la revoient, c'est vraiment un truc intéressant. Et du coup, c'est pas uniquement tenir une image, tenir un cliché, ou c'est authentique, quoi, je pense. Mmh. Donc du coup, moi, j'ai décliné ce truc un peu de façon obsessionnelle, quoi.
Photographiquement, comment est-ce qu'on construit une série sur autant d'années? Parce qu'en fait, tu as photographié ça pendant 12 ans.
C'est en deux temps, en fait. C'est pas sur 12 ans. C'est entre 95 et 98. Après, il y a un arrêt. Et en 2004, 2005, il y a l'idée de participer à ce film. Si vous avez peut-être vu un film qui est un documentaire auquel j'ai participé après la mort de Monsieur Ponticelli, c'est le dernier poilu français. Il y a eu un documentaire qui s'appelle Adieu 14, qui a été fait par Jean-Marc Sursin, qui est à France 2. Il m'a filmé en prise de vue sur les 5-6 derniers. Là. On nous voit justement aller chez la famille, trouver des photos dans le grenier. Je fais une repro en appuyant une image sur un bocal. Et puis j'ai vraiment pris un détail sur cette image parce qu'il était au milieu de plein de copains. Et en fait, j'ai pris un détail, il est entouré de 3-4 bonhommes.
Ouais. Quand tu fais une repro, tu refotographies la photo.
Oui, c'est ça. Une repro, ben maintenant numérique, c'est beaucoup plus simple. Et ben, on a eu cette chance énorme pendant le film, on arrive avec le tirage. La réaction du papy, ça a été « Oh, ben où qui sont les conscrits ?» Et sa fille dit « Mais papy !» Bon, voilà quoi. Et puis, donc du coup, c'est vrai que l'idée de reprendre la série alors qu'il en restait plus que quelques-uns était devenue intéressante. Donc en fait, la deuxième série, c'est entre 2004 et 2008, quoi.
Est-ce que tu as juste justement ce concept au fil du temps ? C'est-à-dire, t'es parti de cette idée, l'ancien combattant avec en miroir l'image qu'il avait quand la guerre s'est déclenchée. Est-ce que tu as la flexibilité sur les années où tu le pratiques ?
En fait, j'ai toujours essayé de faire des choses différentes. C'est-à-dire que tu vois, là, par exemple, c'est un Belge, Paul Hoog. Il était en banlieue de Bruxelles. Son surnom, c'est Le Gamin. Et donc, bon, là, j'ai fait un agrandissement qui n'était pas très très grand. Pourquoi, j'en sais rien. Mais pour l'italien, j'ai fait plus grand. Je crois que c'était un peu au pifomètre, en fait. À moins, parfois, j'ai eu des idées qui sont venues. Là, c'était évident. Pour l'allemand, il fallait qu'il ait la même proportion qu'un visage. J'ai essayé de mesurer, par exemple. Mais dans beaucoup de cas, ça a été vraiment histoire de faire un truc que j'avais pas fait la fois d'avant. C'est-à-dire que l'unité, elle est dans la diversité du truc. Parce que justement, les formats sont chaque fois différents, parce que chaque fois, j'ai essayé de trouver un truc.
Là, s'il y a une contrainte, tu savais que tu n'aurais pas assez de cohérence dans les photos anciennes, ou c'est toi qui voulais faire des choses différentes?
Non, c'est parce que je suis bordélique de nature. C'est ma pente naturelle, quoi. Par exemple, ça, les Américains. Ça, c'est un Américain. Et c'était pour Life, parce qu'en 97, il y a Life qui m'a commandé une série. J'ai eu 10 pages.
D'accord.
Eh bien, ils m'avaient envoyé des repros. Ils avaient fait eux-mêmes les repros, ils m'ont envoyé par la poste. Et je suis revenu avec des agrandissements, roulé dans des tubes parce qu'il fallait prendre l'avion. Ouais. Sauf que j'avais un carton à dessin avec des plaques de carton plume. On peut le couper et puis faire des autres plaques en recollant avec de la colle. Je me faisais une plaque et je collais ma photo dessus parce que ça tenait pas trop, c'est une bande de colle. Là, j'en ai fait un plus petit, là, un plus gros. C'était histoire de...
De varier.
Ouais, et en fait, je sais pas. Le fil conducteur, c'est qu'il faut voir dans l'image la personne aux deux extrémités de sa vie.
D'accord.
À la fois jeune et puis au crépuscule de sa vie, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance à un moment que le projet prenne une dimension un peu supérieure quand le Figaro Magazine s'est intéressé à l'idée. En 97, il y a eu Life. Après avoir fait Life, on est allé voir le Figmag et là, ils ont dit, ouais, on produit un truc. Ils ont produit Le Voyage en Russie, par exemple. On a vu en russe, on était dans le bureau du maréchal Joukov au Kremlin, avec que des apparatchiks, et on avait prévu toute une tournée, on devait visiter des musées, des machins, faire les photos, ils avaient rien prévu. On devait boire un verre de vodka avec le gars, mais à un moment, j'ai vu le globe, là, on dirait le globe du dictateur dans le bureau.
Oui.
Ouais. J'ai dit, stop, on arrête tout. J'ai posé mon truc. On a foutu tout leur cursus en l'air. On a eu des conférences, mais on venait pour photographier papy, mais en fait, ils avaient quasiment rien prévu. Et on a tout arrêté, on a fait cette photo-là. Après, on a bu un toast, j'étais complètement bourré au bout de 3-4 verres de vodka. Mais c'est vrai que c'est des souvenirs. On a eu la chance à un moment de pouvoir faire des choses. On est parti en Serbie aussi, ça c'est un Serbe, en Roumanie. Je regrette juste à un moment de ne pas avoir eu assez de moyens pour voir des Canadiens ou des Australiens. On a retrouvé comme alors le dernier Africain, Monsieur Abdoulaye Ndiaye, qui est décédé en 98 juste avant qu'on le décore, était... on va pas dire inconnu au bataillon, mais sa famille touchait une petite pension. Mais le problème, c'est que dans le village où il se trouvait, c'était difficile pour l'État français de savoir si c'était pas les descendants qui touchaient la pension. Et si lui était toujours là, d'ailleurs. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons envoyé un courrier, alors que nous, on bouclait notre bouquin « Visage de la Grande Guerre » chez Kamal Levy. Et donc, là-dessus, il a alerté l'AFP. Le gars est venu voir, parlait pas le Wolof, il pouvait pas être sûr, il a envoyé quelqu'un de la RFI qui connaissait mieux, et ils sont aperçus que c'était un vrai quoi. D'accord. Donc là-dessus, il y a Le Monde qui est parti, France 2 a envoyé quelqu'un, moi j'ai filmé avec une DV, j'ai vendu comme une minute et demie au journal de TF1, mais l'agence Gamma qui produisait à l'époque a pas voulu nous envoyer parce qu'ils disaient non, on n'a plus de sous. C'est une fondation privée qui nous avait payé le voyage à l'époque. C'est un truc de fou quand même. Parce que c'était un scoop. C'est nous qui l'avions retrouvé quasiment. Et bon, voilà. Donc c'est vrai que la presse, c'est quand même un fonctionnement un peu bizarre. Hein? Pour le moment. Et voilà.
Et là, tu le considères justement comme un travail journalistique ou tu le considères comme un travail avec une portée plus philosophique ou plus artistique?
Ah non, moi je dirais qu'il y a un peu les deux. Mais moi, oui, c'est un petit peu entre le concept artistique, entre guillemets, et le reportage, et puis il y a aussi un petit peu un côté témoignage historique. C'est pour ça que ce truc, ça rentre pas dans les cases, en fait. C'est pour ça que j'ai pas eu une énorme reconnaissance, quand même. C'est vrai que j'ai fait plein de trucs. Là, quand Monsieur Ponticelli est mort, j'ai eu plusieurs pages dans le Figmag, j'ai eu des pages dans le Quotidien, mais même dans plusieurs magazines, y compris dans Télérama. Bon, voilà, parce qu'on a revendu les images, mais si vous voulez, je peux pas dire que ce truc-là m'ait apporté une notoriété, mais il m'ait permis de décoller. Je pige beaucoup dans des féminins de seconde zone ou des magazines où je tairai le nom. Hein. De temps en temps, je fais une belle publication. Mais voilà, ce truc-là, en fait, c'est un peu à part. Hein. Ça parle de la vieillesse aussi, de la mort, ça fait un peu peur.
Hein. Oui, c'est pas les sujets les plus populaires.
Oui, c'est pas sexy. Hein. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on peut toujours bouffer dans la photo, justement aussi grâce à ça, hein, si on se démerde, mais... Faut faire des compromis, quoi. Et c'est vrai que, bon, comme moi, je veux pas dire que j'ai une démarche artistique affirmée, ni une démarche de photographe de presse affirmée. On va dire que bah, je navigue dans des eaux troubles. Mais bon, l'essentiel, c'est d'arriver à nager. Hein.
Tu es passé du noir et blanc à la couleur entre les deux projets. Il y en a un qui est noir et blanc, j'ai bien compris, c'est notamment parce que tu tirais toi-même, etc. Est-ce que ça change quelque chose dans ta démarche, dans ta manière d'aborder le sujet?
Pas vraiment. D'ailleurs, quand j'ai recommencé en 2004... Je faisais de la couleur. Après, je les ai passés en noir et blanc là parce que comme je voulais vendre ça au Monde 2 pour leur série, j'ai voulu qu'il y ait une unité.
D'accord.
Donc je les ai passés en noir et blanc. Mais c'est vrai qu'il y en avait quelques-unes en couleur, celle-ci aussi, voilà. Et en fait, je crois que sur le moment, sur ce type de travail en tout cas, sont des rencontres, hein, c'est des visages, hein, c'est des choses qui sont un peu au-delà du côté formel. C'est-à-dire que j'étais souvent très touché par rencontrer ces gens. C'est des gens qui sont... vraiment proche de la mort, enfin on peut pas leur faire danser la carmagnole, quoi. Je veux dire, il y a des papilles, ils étaient épuisés parce qu'ils avaient parlé une demi-heure avec le journaliste, moi j'avais 5 minutes. Déjà tenir un bout de papier devant son buste, c'est parfois un effort. Ce truc-là, en fait, qu'on le passe en noir et blanc, en couleur, en virage sépia ou n'importe comment, je pense que ça tient la route, quoi.
Qu'est-ce que tu utilises comme matériel pour ce genre de prise de vue?
Alors, moi j'ai commencé sur part de l'argentique, hein, à l'époque, ça... et j'avais du Contax. J'aimais beaucoup, c'était un truc de passionné, hein, qui n'était pas un choix très professionnel, parce que les boîtiers sont peu fiables, mais les optiques sont très bonnes. Et puis j'avais aussi un Mamiya, parce qu'à un moment je faisais un peu de com ou de pub, et un Mamiya 6-7. Bon, à un moment je suis passé au numérique, un peu contraint et forcé, mais bon, maintenant la technique du numérique étant devenue... maintenant on peut plus se poser la question, est-ce que c'est mieux le numérique ou moins bien? C'est devenu un outil performant qui permet d'être créatif. C'est pas exactement ce qu'on a quand on fait du négatif ou de la dia. C'est un support dont on peut tirer parti, comme on pourrait tirer parti d'un autre support. Mmh. Après, c'est vrai que l'avantage du numérique, c'est que on peut produire des choses et que ça coûte assez peu cher. Enfin, à part le fait qu'il faut changer de boîtier assez souvent. Mais bon, maintenant que j'ai le D3, je pense que je changerai pas tout de suite, mais j'avais commencé par du Fuji. Il y a pas mal de photos. Du début, j'avais le Fuji S2, S3, qui n'étaient pas des mauvais boîtiers. Je trouvais qu'ils avaient une qualité de couleur intéressante. Malheureusement, ils étaient assez lents.
Tu travailles en lumière naturelle au flash?
Je travaille au flash, mais je mélange des fois les deux.
Flash de reportage ou flash studio fixe?
J'ai des Quantum, des vieux Q-flash que je peux emporter.
D'accord.
Parfois, je mélange un peu les deux. C'est-à-dire que je peux mélanger un coup de flash et puis la lumière ambiante. Toute ma série là sur les 14-18, c'est souvent fait avec un parapluie et un coup de flash. Hein.
D'accord.
J'en ai rarement mis deux parce que d'abord, moi quand je tirais mes images, je travaillais beaucoup sur le tirage. Donc ma lumière était souvent très simple à la prise de vue.
Oui.
Et après, le travail de tirage rajoutait un petit peu, voilà, je crois qu'il faut un peu improviser, quoi. Bon, la technique, ça rentre en ligne de compte, mais je crois que c'est pas le plus important. Une photo peut être ratée techniquement, enfin ratée entre guillemets, hein, avec un jetable.
Limite, quoi.
Ouais, avec un jetable, on peut faire une bonne photo.
Exactement. Hein, oui.
Donc, bon, après, c'est vrai que moi, je maîtrise pas mal l'ordinateur parce que je viens du graphisme. J'ai une chaîne cohérente, j'ai un écran calibré. Bon, mais en fait, ce que je fais sur Photoshop, ça s'apparente un peu à ce que je faisais sous l'agrandisseur. J'ai mis au point des petites techniques, hein, toutes simples, hein, qui me permettent de retrouver à peu près le même effet. On fait ça avec la souris et des calques, que quand on avait la petite pastille sous l'agrandisseur.
Ouais.
Je rajoute de la lumière par endroit, j'en enlève, et c'est vrai que c'est assez jouissif de retrouver cet effet-là, puis de se dire qu'il est gravé, quoi. Et puis c'est vrai qu'on arrive à voir, avec les imprimantes jet d'encre, c'est devenu beau. Enfin, il y a une richesse de gris, il y a une vraie profondeur dans les noirs, on peut arriver à maîtriser tous les paramètres de l'image, donc on peut arriver à faire des créations. Le support aussi est devenu pérenne, c'est des papiers qui durent dans le temps.
Tu as d'autres séries comme ça qui s'étendent dans le temps?
Parce que
tu as dit tout au début de l'entretien, je ne m'imagine pas faire des photos sans avoir justement des projets qui s'étendent dans la durée.
Là, j'ai une série sur les tatoués, avec des diptyques aussi. J'ai une photo dans l'entrée du pompier, là. Je vais aller te la chercher. Voilà, ça c'est un chef d'entreprise qui est PDG dans le labo pharmaceutique, de recherche pharmaceutique.
Vous ne le voyez pas, mais de nouveau, il y a un effet de contraste saisissant avec la... la personne qui est très propre, on dirait le portrait corporate, quoi, le portrait
c'est,
business.
C'est fait pour ça.
C'est fait pour ça. Et l'autre, il est propre aussi, c'est pas ça, mais il est couvert de tatouages.
Ouais, il a un tatouage maori qui fait à peu près la moitié du corps. Et ça, c'est une agent de police.
Et de nouveau, tu fais le contraste entre la vie publique et la vie privée.
Ouais, une infirmière qui a un dragon dans le dos. On a fait 6 pages dans Marie-Claire au mois d'octobre dernier. Donc là, je continue ma série parce que j'aimerais faire un bouquin. Mm-hmm. Donc là, c'est une famille. Donc la dame a le portrait de son fils qui fait tout son dos, hyper réaliste. Hein. Son mari aussi est tatoué, mais lui, c'est un petit peu les tatouages de voyous sur les bras. Donc il entoure le dos de sa femme et à côté, on les voit en tenue de ville.
En tenue de ville, effectivement, très très... Même principe, comment est-ce que tu as l'idée
pour... Simplement, le chef d'entreprise qui est un de mes clients est venu me voir pour un portrait. Mm-hmm. Il a fait ce tatouage assez rapidement, en fait.
D'accord.
Moi, je l'avais vu 2 ans auparavant, il l'avait pas. Donc j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui dépassait du col de chemise et puis il m'a dit j'ai un tatouage là, et puis tiens d'ailleurs on pourrait pas faire une photo tant qu'on y est. Voilà.
D'accord. Et là tu as vu le contraste et tu t'es dit je suis sur quelque chose quoi.
Pas tout de suite, c'est après, j'ai fait ça pour lui faire plaisir hein, la photo, c'est une copine qui est passée qui m'a dit c'est fou, faut en trouver d'autres. Mmh. Donc le deuxième que j'ai trouvé c'est un boucher, j'ai été voir Tintin qui est le tatoueur à la mode, il tatoue les stars, Florent Pagny, tout ça, il est pas loin. C'est un gars, grande gueule comme ça, et il dit, je tatoue mon boucher. Donc j'étais voir le boucher.
Quel est l'accueil quand tu viens avec ce genre de projet?
Il y a toutes les réactions. La plus surprenante, c'est une infirmière qui, au dernier moment, m'a dit qu'elle voulait annuler la prise de vue parce qu'elle avait peur que les gens, si c'était publié, copient son tatouage. Parce que c'est un truc personnel. Donc...
D'accord.
Après, il y a des gens qui veulent pas pour des raisons de pudeur. Hein. En général, c'est relativement bien accueilli parce que il se trouve beau, quoi. Comment dire? C'est vraiment un truc intéressant à une époque où on est tous, enfin, la majorité des gens essayent de rentrer dans la norme. Mm-hmm. La mode, c'est comme la chirurgie esthétique, vous faites raccourcir le nez, refaire les seins ou je ne sais quoi, ou enlever la graisse des hanches pour rentrer dans la norme. Alors, ces gens-là, eh bien, ils sont devenus totalement différents. Ce qu'ils ont, c'est unique, c'est une œuvre unique. C'est pas comme avant les trucs tribaux ou qui avaient des marques de reconnaissance entre eux, ou même ce qu'on pourrait voir éventuellement en Amérique du Sud où vous avez des gangs où ce sont des marques de reconnaissance de groupe. Là, c'est un truc très occidental où la personne elle cherche à se distinguer et en fait elle change de peau, elle se recrée une peau à elle tout en sachant que justement elle va devenir pas un monstre, mais enfin elle va subir le regard des gens et il faut assumer après.
Comment est-ce que tu les abordes? Tu leur montres le travail qui existe déjà et tu leur dis voilà, je voudrais.
Au début, c'était difficile. Maintenant que j'ai toute une série, là, c'est relativement plus simple. Là, j'ai fait un petit book, là, et. Mais bon, je vais essayer de faire un livre, ça serait sympa, parce qu'en plus, il y a plein d'histoires. Certains ont des choses à dire et c'est étonnant.
Mais Didier, merci beaucoup pour nous avoir promené dans la démarche et dans la manière dont tu abordes ce genre de sujet.
Bah, je te remercie beaucoup parce que parler de ton travail sur un support qui va être écouté par plein de gens, c'est quand même valorisant et puis c'est un plaisir, voilà.
Merci.
Au revoir.
Troisième segment avec les réponses aux commentaires et des messages d'encouragement reçus de DreamZ, Ben76, Studio Focus, Antoine Magnier, également connu sous le nom de Toine, Mister Soul, Gaps, Fabien, Kizoni, Granvillé, Adrien, Henri Rossier, Chacalopode, SMBD91, Manu2023, Franz Topix, Albert Dieudonné et Jawel. Lightroom Reg et Pierre-Luc ont apprécié l'épisode Exposition et photo numérique. Je cite « La simplification assumée gagne en compréhension sans être dans la caricature, ça fait plaisir à lire. » Sur l'exposure fuchent une diverse demande de précision sur les logiciels par Emelo et Jean-Michel, des réponses de Shadow, qui précisent que le logiciel s'appelle Hugin et rappelle les 2 grosses différences par rapport au HDR, qui sont d'ailleurs reprises dans l'épisode, à savoir que le traitement se fait en une seule étape, il est donc plus rapide et le rendu est plus proche d'un rendu photographique. Pour aller plus loin dans l'explication, je crois qu'il faudrait faire des maths, donc on va s'en passer pour le moment. Pas mal de retours d'expériences positives sur l'exposure Fusion, avec des retours de Xavier, Stéphane, Adrien M, Escaro, qui rajoute d'ailleurs des conseils précis pour la préparation des fichiers RAW en vue d'une fusion, Potoche et Gimli. Sur la mesure d'exposition, un commentaire de Tom qui s'inquiète de la tendance au tout automatique. Franchement, je trouve ça un peu de mauvaise foi, parce que Delphine, dans l'épisode, n'a pas cessé de nous inciter à débrayer le tout automatique. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment d'opposition entre les 2 approches et que c'est bien d'avoir un boîtier polyvalent, qui est capable de fonctionner en automatique ou pas. Et j'en prends pour preuve l'annonce du D3X lundi dernier. La démonstration a débuté par des photos de studio classiques, où les automatismes sont donc débrayés, et a continué par des photos beaucoup plus mobiles, là où les automatismes redeviennent utiles. Il faut donc, comme souvent, connaître bien son appareil, savoir quand on va se fier aux automatismes et quand on va les débrayer. Nathalie se demande si le capteur est aussi performant pour toutes les teintes de chair, et la réponse est oui, sans ambiguïté. La difficulté pour le photographe, c'est qu'un éclairage qui va être flatteur pour une teinte de peau donnée n'est pas nécessairement flatteur pour une autre teinte de peau, donc on va devoir parfois ajuster son éclairage. Sashimi note qu'il doit souvent sous-exposer son icône sous peine de percer les blancs. comme on l'a indiqué dans l'épisode, le besoin de surexposer ou de sous-exposer dépend aussi des sujets que l'on photographie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un réglage, pour qu'on adapte l'appareil à ses besoins, pour qu'on se l'approprie. Christophe Ramos demande où voir les invités. La réponse est très simple. Il suffit de s'abonner à la galerie Flickr. Il y a un lien sur www.déclencheur.com. Sur cette galerie Flickr, je poste les photos prises en interview. Ça vous donne également l'occasion de savoir à l'avance qui va venir en interview sur Déclencheur. Sur l'épisode Paramètres de l'exposition au flash, Guillaume et Lightroom Rec pointent vers des ressources complémentaires. Sur ce même épisode, Vincent demande une précision. Comment se fait-il que la vitesse n'influence pas sur la photo au flash ? L'éclair est tout simplement bien plus rapide que l'obturateur et donc la vitesse ne doit pas être utilisée comme un paramètre, contrairement aux autres expositions. Attention, je parle bien ici de l'exposition au flash et de l'exposition au flash uniquement. Si on combine flash et exposition en lumière ambiante, par exemple pour déboucher les ombres, alors on a ce qu'on appelle une double exposition. Et là, effectivement, la vitesse va redevenir un paramètre. C'est un sujet qu'on traitera dans un futur épisode de Déclencheur. Sur le mini-sujet, la photo peut également être une surprise. Deux réactions extrêmement contrastées. Flodine qui est déçue, qui ne voit pas l'intérêt de l'épisode, et Philippe qui l'a adoré. Il retrouve une conversation agréable entre photographes. Ça rentre en fait pour moi dans les épisodes expérimentaux. Des épisodes qui sont là pour voir s'il y a matière à traiter les sujets d'une autre manière ou à traiter d'autres sujets. Yann demande quel micro j'utilise et les réponses avec énormément de détails sont sur le blog Carnet. Il y a une catégorie dédiée dans laquelle vous trouverez toutes les informations sur le matériel utilisé pour la production de déclencheurs. L'épisode 3 techniques HDR a déçu Davidus, je m'en suis déjà expliqué, mais nous sommes d'accord, l'épisode aurait pu être meilleur. L'épisode « La vidéo débarque sur réflexe » a entraîné l'inévitable débat autour de l'utilité de la fonction vidéo sur un réflexe, avec des commentaires d'Adrien Hodge, de Flodine, de Fabien, de Lightroom Rec, d'Ixu, de Bruno et d'Alan Dave. Pour moi, la réponse elle est très simple. Si vous réécoutez l'épisode sur le salon de la photo, si vous réécoutez l'enquête qui a été réalisée à cette occasion, eh bien vous comprendrez pourquoi les fabricants cherchent à offrir cette fonction. Clairement, c'est une demande de la génération qui va bientôt s'équiper de réflexes. Sur l'utilisation du LabVIEW à l'AFP sur l'épisode Salon de la photo, il y a diverses réactions sur l'utilisation d'un diaporama accompagnant l'épisode. Golf Boic, Joachim B, Franca, Mr. Saul, Fred Krozak et Flodine ont ainsi réagi. En quelques mots, l'utilisation de ces diaporamas, pour moi, c'est une expérience, de plus, pour voir d'une part comment et où intégrer plus d'images dans Déclencheur, et d'autre part, pour voir s'il est intéressant de distribuer certains épisodes sur des plateformes alternatives comme YouTube, par exemple. Je poursuis avec d'autres questions qui ont été postées sur des épisodes plus anciens. Tout d'abord Bertrand, qui partage son expérience des flashs Quantum, qui sont à mi-chemin entre les flashs du studio et les flashs de reportage. Lightroom Rec se demande où commander des flashs du studio et apporte la réponse dans le commentaire suivant, DB Photo livrant dans toute la France. Domain suggère de traiter les champignons qui peuvent apparaître dans les optiques, je le rajoute à la liste des suggestions pour un futur épisode de Déclencheur. Gaëtan L n'est pas satisfait de la netteté des photos sous Adobe Camera Raw ou sur Lightroom, alors qu'il les trouve parfaites sur Capture Enix. Que faire, me demande-t-il. Chaque logiciel a un algorithme qui lui est propre, ce qui veut dire deux choses. D'abord, les paramètres qui peuvent fonctionner sur un logiciel ne sont pas nécessairement les bons paramètres pour un autre logiciel. Il faut parfois jouer un petit peu là-dessus. Mais de façon beaucoup plus simple, si NX2 paraît donner un rendu satisfaisant, je resterai tout simplement sur ce logiciel-là. Sur le même thème et sur un épisode très ancien, Hitman 11 demande ce qu'est un logiciel développeur. Depuis, le terme d'érotiseur semble s'imposer, donc c'est bien le logiciel qui permet de traiter un fichier RAW. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à Déclencheur pour être certain de ne rater aucun épisode à l'avenir. L'abonnement est gratuit, cela signifie seulement que vous êtes averti de la sortie des nouveaux épisodes. Tous les renseignements sont sur le site www.déclencheur.com. Je vous rappelle également que Déclencheur vous propose des nouveautés tous les jours avec le Wiki News grâce auquel vous pouvez partager votre expérience du matériel, des livres, des accessoires, des logiciels et des sites photos. Enfin, le blog Carnet vous ouvre les coulisses de Déclencheur. À bientôt donc sur www.déclencheur.com.